Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette période de Noël, comme dans les années précédentes, je voudrais partager avec vous, amis auditeurs, une lecture un peu particulière. J'ai effectivement retrouvé un conte ancien qui s'intitule « Le Noël du braconnier ». Il a été écrit par Denise Soulier il y a fort longtemps, aux éditions Bethel. Voici « Le Noël du braconnier ». En cette matinée de décembre, un brouillard léger traînait sur la campagne, embuant les lointains et estompant dans les bois défeuillés les silhouettes grêles des chênes blancs. Autour de la maisonnette du garde-chasse, Blaise Rousson, les grands pins à la verdure constante, semblaient se pencher les uns vers les autres en conciliabule secret. Dans la brume qui ouatait l'atmosphère, aucun bruit ne troublait le silence, sauf quelques cris de moineaux affairés autour de la mousse humide des sous-bois. La maison du garde, modeste construction aux murs crépis de rose, se cachait à l'orée de la forêt. Derrière elle, vers le nord, la colline s'élevait, plantée de grands arbres, sous lesquels croissait une broussaille serrée. Au midi, s'étendaient quelques terres incultes qui descendaient en pente douce jusqu'à la plaine. Quand le temps était beau, on apercevait, au-delà du Rhône, les étangs scintillant au soleil et plus loin la grande mer, semblable à un fil d'argent qui aurait séparé la terre et le ciel. Mais en ce jour de veille de Noël, la vue était bornée et Marie-Jeanne Rousson, en sortant de sa cuisine pour aller porter les épluchures au lapin, n'aperçut qu'un voile blanc à travers lequel les têtes arrondies des pins émergeaient comme des fantômes. « Vilain temps !» murmura-t-elle en frissonnant. « Heureusement que je suis allée hier au village faire mes emplettes. » Rapidement, elle regagna la petite cuisine tiède où le feu brillait gaiement. Trois têtes ébouriffées se pressaient vers la fenêtre. Marguerite, Rose et Glantine, trois fillettes de 4 à 10 ans, la plus grande richesse du ménage et son grand sujet de joie. L'aînée était déjà une petite femme. Elle savait aider sa mère et manquait quelquefois l'école pour garder ses petites sœurs quand Marie-Jeanne travaillait au champ. C'était souvent utile pour équilibrer le maigre budget, car la place de garde-chasse de Bellecombe n'était pas grandement rétribuée. Blaise avait été pourtant heureux de l'accepter quelque 15 ans auparavant. Fils de paysan, il avait toujours été chétif et délicat, peu porté aux durs travaux de la campagne. Comme il était intelligent et aimait l'étude, ses parents avaient fait le sacrifice de le faire instruire, dans l'espoir qu'il pourrait occuper une petite place dans un bureau et devenir une sorte de monsieur, ce qui ne leur déplaisait pas. Mais au service militaire, Blaise avait attrapé une vilaine bronchite et les docteurs n'avaient pas caché que le jeune homme était en mauvaise voie et devait absolument vivre à la campagne au grand air. C'est alors que la place de garde-chasse s'était trouvée libre à Bellecombe et Blaise l'avait acceptée. La suite avait donné raison au médecin et le remède s'était révélé merveilleux. En toute saison, de jour et de nuit, le garde parcourait bois et guéret et sa santé n'inspirait plus aucune inquiétude. Bientôt après son retour du régiment, Blaise avait épousé une solide fille des champs, sans aucun avoir, mais vaillante à l'ouvrage, pleine de bonté et de droiture. Tous deux aimaient le Seigneur et leur union s'était fondée sur des bases solides et profondes. Aussi, le ménage Rousson était-il connu dans tout le pays comme modèle de fidélité, d'honnêteté et de loyauté. Blaise savait, par son heureux caractère, sa serviabilité et son sens inné de la justice, mener à bien son rôle, souvent difficile, de garde-chasse, et même les braconniers du village le respectaient, tellement la véritable valeur morale s'impose. Un seul homme était pourtant son ennemi. C'était un triste personnage qui avait établi son quartier général dans la commune et qu'il exploitait par ses rapines et ses maraudages. Ce garçon de 18 ans, à l'aspect hâve et misérable, était arrivé à inspirer une sorte de terreur aux habitants du village, qui n'osaient pas dévoiler ses méfaits ni se plaindre de lui. Venu un jour on ne sait d'où, sans famille, sans amis, René Alizon ne travaillait jamais et pourtant, il avait assez d'argent en poche pour payer parfois au café de magistrales tournées à tous les garçons du pays. Au printemps, il battait les bois à la recherche d'asperges sauvages dont il faisait de grosses bottes et qu'il mettait ensuite en loterie. Il ramassait, selon la saison, des champignons, du thym, du houx, qu'il allait vendre à la ville. Il disparaissait quelquefois pendant une ou deux semaines et revenait avec des volailles d'une provenance fort douteuse. Mais le plus clair de ses revenus était certainement le braconnage. Dès les premiers jours d'août, il partait régulièrement à la tombée de la nuit, plaçait pièges et collets qu'il relevait au petit jour et qui le fournissaient abondamment de lapins et de perdreaux. Il les faisait ensuite loter dans les cafés de tous les villages avoisinants et gagnait ainsi largement sa vie. Les bois de Bellecombe constituaient la plus belle réserve du pays et Blaise Rousson devait forcément se trouver aux prises un jour ou l'autre avec le jeune René. Leur premier contact excita, chez le garde-chasse, une véritable pitié. Ne pouvait-on essayer de gagner le cœur de ce gamin blême aux allures louches, aux paroles insolentes, qui poussait au hasard, sans direction, sans conseil, sans affection? Serait-il insensible à un peu de bonté, au lieu de lui dresser le procès-verbal que son méfait exigeait? Blaise lui fit un petit discours, lui expliquant que, par charité, il ne le punirait pas cette fois, mais qu'il devait s'engager à ne pas recommencer. Il ajouta quelques avis pleins de bon sens et de cordialité. Peine perdue. René, enchanté de s'en tirer à si bon compte, récidiva promptement, et cela plusieurs fois. La patience du garde fut mise à rude épreuve. Et d'ailleurs, son devoir ne lui permettant pas d'user plus longtemps de charité, un procès-verbal fut dressé contre le précoce braconnier. Ceci se passait au début de décembre. Depuis lors, René s'était vu étroitement surveillé par la gendarmerie. Son butin s'en était fortement ressenti. Et juste à l'époque des fêtes, où le jeu de loto est autorisé et où se réalisaient généralement les plus gros gains de l'année. On devine sa fureur et la haine qui germait dans son cœur contre le garde-chasse, auteur, d'après lui, de tous ses déboires. Dans l'après-midi de cette veille de Noël, le jeune garçon errait dans les bois de Bellecombe, un vieux fusil de chasse sous le bras, l'air plus misérable et plus égaré que jamais. Sa veste de drap râpée d'une couleur invraisemblable collait aux épaules, moulant les os décharnés des omoplates, la casquette rabattue sur les yeux, les cheveux trop longs qui descendaient presque sur le col du vêtement, le foulard multicolore et les espadrilles de toile. Tout avait l'air sordide dans sa malingre personne. Le regard bleu clair paraissait angoissé et sa main maigre se crispait au canon du fusil. Quel gibier cherchait-il donc en parcourant ainsi à pas de loup les sentiers qui serpentaient dans les taillis? Il marchait nerveusement, sans prendre garde aux épines qui frôlaient le bas de son pantalon, ni aux gouttes d'eau dégringolant sur lui, lorsqu'il secouait au passage une branche de pin ou de chêne vert. Son but ne devait pas être très précis, car il suivait tantôt une direction, tantôt une autre, repassant quelquefois par le même chemin et s'arrêtant souvent comme pour écouter un bruit lointain. La nuit hâtive de décembre descendait sur le paysage. Mais comme cela arrive souvent au moment du coucher du soleil, une pâle clarté illuminait maintenant le ciel. Dans la grisaille des nuages, une douce lumière dorée filtrait, et là-bas, autour des étangs endormis, la plaine se teintait de rose. Mais cette étrange lumière s'éteignit vite. Plus sombre qu'auparavant, les nuages semblaient se rejoindre en flocons serrés, et tandis que l'ombre victorieuse environnait toute chose, une pluie fine se mit à tomber. « Il ne sortira pas !» gémit le garçon en se laissant tomber au pied d'un arbre. « Ah, que faire maintenant ?» La tête dans ses mains, René ne fut plus qu'une ombre accroupie sur la terre humide qui exhalait une odeur de mousse et de champignons. Mais dans le cœur du jeune homme, la tempête grondait. Depuis quelques jours, une idée fixe le tenaillait sans trêve. Se venger du garde-chasse, se débarrasser de lui à tout jamais. Et petit à petit, cette idée avait pris corps. Ce serait si facile, en se cachant dans les bois au crépuscule, de guetter l'homme et de l'abattre proprement d'un coup de fusil. Un accident de chasse, et c'est si vite arrivé. Personne ne saurait rien. Et la pensée que cette chose affreuse serait plus affreuse encore si elle se passait le soir de Noël donnait une étrange jouissance à l'âme pervertie du braconnier. Après tout, le jour de fête, créé seulement pour les heureux de ce monde, pensait-il, lui avait toujours fait horreur. Oui, la maison du garde-chasse serait ensanglantée ce soir-là, et la vengeance serait accomplie, elle serait complète. Vers 2 heures de l'après-midi, René était allé à l'auberge du Coq d'Or prendre un café, accompagné de plusieurs petits verres de rhum, car, au fond de lui-même, quelque chose défaillait. Puis, dans la brume, il était parti, d'un pas décidé, vers les collines boisées de Bellecombe. Maintenant, devant l'insuccès de sa tentative, une sorte de démence s'emparait de lui. Remettre son projet au lendemain lui semblait une chose impossible. Il fallait en finir coûte que coûte. Il ne pouvait supporter plus longtemps l'angoisse qui lui tordait le cœur. L'excitation produite par l'alcool se dissipait peu à peu et à mesure que l'acte projeté lui apparaissait dans toute son horreur, une hâte étrange le saisissait, la hâte d'en finir et d'en finir vite avant que le courage vienne à lui manquer. Se relevant vivement, René s'engagea dans une sorte d'avenue taillée à travers les broussailles pour faciliter la chasse. De là, il prit un sentier moussu et se trouva près de la maisonnette du garde-chasse. À travers les fentes des gros volets filtrait un mince rayon de lumière. En plaquant son oreille contre la fenêtre, le jeune homme distingua plusieurs voix, parmi lesquelles le timbre connu de Blaise Rousson. En entendant la voix de celui qu'il considérait comme son ennemi, la rage du garçon augmenta et une idée diabolique se présenta à son esprit. Derrière la maison, il y avait un appentis qui servait d'étable à la chèvre de Madame Rousson. On y tenait aussi une réserve de bois, et cette pièce communiquait avec la cuisine. Si la porte n'en était pas fermée à clé, il lui serait facile de s'y glisser, et par là, de tirer sur le garde presque à bout portant. Pas une minute. Il ne s'arrêta à la pensée de l'imprudence qu'il commettrait et des conséquences terribles qui pourrait en résulter pour lui. Rien n'existait plus. Dans l'âme enténébrée de René, rien que la vengeance à accomplir, malgré tout, et le plus vite possible. La vie, il faut le dire, lui paraissait une chose de peu de valeur, si piètre, si triste, si décevante, que même si, à cette heure, il avait eu la certitude d'avoir à payer de sa tête le crime qu'il allait commettre, cette pensée n'aurait pu l'arrêter. Sous la pluie, devenue plus intense, une silhouette dégingandée se glissa vers l'étable. La porte, fermée seulement par un rustique loquet, fut ouverte sans bruit et René se trouva dans un petit réduit obscur. Tandis qu'il s'arrêtait pour s'orienter à sa droite, la chèvre bêla et le garçon n'eut que le temps de se jeter à sa gauche derrière un gros tas de fagots. « Qu'est-ce qu'il y a, Lisette ? Pourquoi bêles-tu, ma fille ?» C'était la voix de Marie-Jeanne et c'était sa tête aux cheveux crépus qui apparaissait dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine. Mais la chèvre, rassurée, resta silencieuse et la jeune femme retourna à son occupation devant le feu. Seulement, la porte était restée entr'ouverte et René pouvait maintenant voir clair dans son étroit logement. Il s'était casé dans le seul coin libre entre un monceau de sarments et un tas de souches. De là, il apercevait la cuisine, éclairée par une lampe à pétrole, la moitié de la table, ornée d'une nappe à carreaux rouges, et au-delà, un arbuste étrange, une sorte de pin aux rameaux bariolés qu'il ne put identifier au premier abord. La femme du garde s'affairait tout autour et semblait suspendre au petit arbre des oranges et des mandarines qu'elle prenait sur le buffet. Elle saisit ensuite des bougies, roses, bleues et jaunes, fines et menues qu'elle planta avec dextérité dans les branches au moyen d'une épingle. René comprit alors qu'il s'agissait d'un arbre de Noël. Il en avait vu quelquefois dans les vitrines des magasins à l'époque des fêtes. Comme Marie-Jeanne fixait sa dernière bougie, son mari entra dans la cuisine et son costume de futaine apparut près de la porte. « As-tu bientôt fini ? » demanda-t-il. « Les petites ne veulent plus attendre. » « Voilà, ça y est, quelques papillotes ici et là, la barre de nougat. » Ce qu'elles vont être contentes. J'allume et nous pourrons les appeler. Enflammant aux braises du foyer une longue allumette de papier, la femme éclaira l'une après l'autre les mignonnes bougies. Puis, éteignant la lampe, elle appela joyeusement les enfants. Une très douce clarté venait maintenant de la cuisine et se glissait jusque dans l'étable. Une clarté si apaisante et si pure qu'elle en paraissait irréelle. René tressaillit en entendant les clameurs des trois petites qui étaient accourues dans la cuisine et battaient des mains en face de l'arbre de Noël. Il était pourtant bien malingre, le pauvre petit pin, arraché le matin même à la colline et planté un peu de travers dans un mauvais pot de grès. Les bougies se penchaient désespérément de tous les côtés, arrosant de leurs larmes multicolores les modestes friandises rangées autour de lui. Quelques fruits enfilés à des ficelles pendaient trop lourdement aux branches et compromettaient l'équilibre de tout l'ensemble. Mais, tel qu'il était, l'arbre de Noël apparaissait aux enfants. Merveilleux, féerique, venu tout exprès d'un pays de rêve pour leur apporter, en ce jour extraordinaire, ce qu'elles avaient désiré depuis de longs mois. La joie des parents était tout aussi grande, plus grande peut-être, quoique moins bruyante. Lorsque les premiers transports furent calmés, les petits paquets ouverts, les baisers échangés. « Si vous chantiez mon beau sapin avant que les bougies ne s'éteignent, » proposa le garde. « Mais alors, « Maman commencera et chantera avec nous !» a déclaré Marguerite. La voix rude de Marie-Jeanne entonna aussitôt les premières notes, accompagnées bientôt par les accents grêles des trois fillettes. Les trois strophes du cantique furent enlevées à vive allure, puis, tandis que les enfants s'absorbaient encore dans la contemplation de leur trésor, la mère ralluma la lampe et posa la soupière fumante sur la table. « Voilà, nous pourrons souper maintenant !» s'écria-t-elle. « Tu dois avoir faim, Blaise. Il est plus tard que d'habitude. »« Pour sûr que je me mettrai à table avec plaisir !» répliqua le garde en s'approchant. « Mais ce n'est pas tous les jours Noël. Il faut bien que ce soit un peu fête. Tiens, tiens, tu as mis une assiette de trop. Est-ce que tu attends un convive ?» Ah, par exemple, je ne l'ai pas fait exprès. Mais vrai, vrai, si le Seigneur nous envoyait ce soir un malheureux pour partager notre repas de Noël, je le recevrais de bon cœur. Il y aurait sa place, la place pour lui. Surtout qu'il ne doit pas faire bon pour vagabonder dans une nuit pareille. Entends la pluie comme elle tape sur les tuiles. Quelle pitié de penser qu'il y en a ce soir qui n'ont pas un toit pour s'abriter, ni peut-être même un morceau de pain. » Un petit silence, puis la voix grave de Blaise Roussan s'éleva, plus grave encore que de coutume. « Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour le repas que tu nous donnes dans ta bonté. Merci aussi, en ce jour de Noël, de nous avoir donné Jésus, notre Sauveur. Et souviens-toi des malheureux et de ceux qui manquent du nécessaire. Amen. » Là-bas, dans le réduit, René serre convulsivement ses mains l'une contre l'autre. Il se sent mal à l'aise, angoissé, comme il ne l'a jamais été. Quelque chose d'étrange le serre à la gorge. Son cœur lui semble lourd comme une pierre et son esprit paraît vouloir s'évader de lui. Le canon de son fusil sur lequel glisse un faible rayon de lumière est posé tout près de lui. En l'apercevant, le garçon a comme un sursaut d'horreur. Tout doucement, pour ne pas frôler les sarments qui craquent et pour ne pas effaroucher la chèvre qui rumine paisiblement, René se relève et gagne la porte. Il ouvre avec des précautions infinies. Et tout à coup, la pluie se jette sur son visage, le fouette, le transperce, lui et ses minces vêtements, quelques pas et la maison est contournée. Dans la nuit, rayée de pluie, un rictus bizarre crispe la figure du gamin. « Un peu voir, si le pauvre, c'était moi !» Et deux coups violents sont assénés à la porte de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» Le garde a ouvert et regarde au dehors, une main protégeant ses yeux de l'éclat de la lampe. « C'est moi !» dit une voix mal assurée. « Et il fait un sale temps. Je viens voir si vous voudriez me donner une assiette de soupe. »« Tiens, c'est René. Entre, mon garçon, et viens te sécher devant le feu. Te voilà trempé comme un rat. Et puis, tu mangeras avec nous. Tu vois, Marie-Jeanne, voilà l'hôte que Dieu nous envoie pour le soir de Noël. » Tout en parlant, le garde a refermé la porte et poussé une chaise devant le feu. René peut voir maintenant toute la cuisine, la flamme claire qui danse dans la cheminée, les trois petites filles assises autour de la table, les quelques meubles bien pauvres rangés contre les murs blanchis à la chaux et enfin le petit arbre de Noël sur lequel une dernière bougie achève de brûler. Une bonne odeur de soupe au lard se marie avec le parfum de résine et d'aiguilles de pain brûlé qui flottent dans la pièce. Quelque chose de plus que René ne connaît pas l'enveloppe et le pénètre. Est-ce peut-être l'atmosphère d'un foyer? Marie-Jeanne n'éprouve pas beaucoup de sympathie pour le jeune braconnier. Il lui inspire même une certaine frayeur. Il y a de si vilains bruits qui courent sur son compte. Elle aurait préféré que le Seigneur Jésus ait envoyé ce soir un autre malheureux. Par exemple, le vieux raccommodeur de parapluies qui passe régulièrement et qui est un habitué du pays. Ou bien l'amputé à la jambe de bois qui parcourt les routes sur un petit chariot traîné par son chien. Enfin, il ne s'agit pas de choisir, mais d'accepter. Et le bon sourire de son mari rassure Marie-Jeanne. Il a l'air si heureux d'accueillir ce gamin blême et tremblant. Il lui parle d'un air si paternel, tout en amoncelant dans son assiette les meilleurs morceaux du repas. Blaise lui donne en ce moment une leçon pratique sur le pardon des injures, car il est avéré que René a souvent insulté et menacé le garde. Mais ce soir, dans la maisonnette solitaire, on se souvient que c'est Noël, la fête de la réconciliation et de l'amour parfait. René a d'abord mangé avec peine, la gorge serrée, regrettant d'être là et cherchant un prétexte pour sortir au plus tôt. Maintenant, une détente se produit en lui. Est-ce la douce chaleur qui se dégage du feu de souche et qui chasse dans une buée l'humidité de ses vêtements? Est-ce la lumière réconfortante après les ténèbres du dehors? Est-ce la joie qui pétille dans les yeux des enfants? Ou plutôt la bonté grave qui se dégage de la personne du garde? Le malheureux garçon ne saurait le dire, mais quelque chose s'amollit en lui et une sensation de bien-être inconnu se traduit, chose étrange, par une invincible envie de pleurer. En même temps que son cœur, ses lèvres s'ouvrent, il répond aux questions qui lui sont posées. Pour la première fois de sa vie, peut-être, il se sent en confiance avec quelqu'un et il s'abandonne, parlant de sa triste enfance, de pupille de l'assistance publique, ballotté d'un endroit à l'autre, sans jamais rencontrer une famille. Il raconte les sottises de plus en plus grosses qu'il a commises, les coups reçus, les privations supportées et la haine toujours plus grande qui s'est infiltrée dans son cœur jusqu'à le posséder tout entier. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est de n'aimer personne et de n'être aimé de personne, de souffrir et d'être rejeté par tout le monde. Ah, la vie n'a pas été bonne pour moi. Aussi, je la hais. Pauvre petit. C'est tout ce que Blaise trouve à dire. Hein? Et Marie-Jeanne se détourne pour essuyer une larme du coin de son tablier. Et moi qui avais de l'aversion pour ce garçon, pense-t-elle. Pauvre petit malheureux, s'il avait eu une famille, il n'en serait pas là. Depuis longtemps, le repas est terminé, mais les deux hommes restent assis en face l'un de l'autre et causent toujours. Chacun d'eux est intéressé de découvrir chez l'autre une personne morale toute différente de celle qu'il avait soupçonnée. Blaise réalise que la méchanceté légendaire du jeune braconnier est le fruit d'une profonde souffrance et d'une ignorance absolue de toute loi d'amour. C'est la conséquence normale d'une enfance délaissée qui n'a connu que des laideurs de la vie, jusqu'à croire que rien n'existe que le péché. Pauvre René, c'est une révélation plus inattendue encore de trouver chez le garde des sentiments profondément charitables à son égard et de découvrir que son farouche ennemi est le premier être au monde qui lui parle avec affection et bonté. De quelles terribles incompréhensions les haines humaines sont faites, et comme les hommes sont toujours prêts à juger sans connaître. Marguerite, Rose et Glantine ont les yeux lourds de sommeil. Il est tard, et trop de joie produit, après une certaine excitation, une bienfaisante torpeur. « Je vais coucher les petites, » dit Marie-Jeanne, qui a déjà lestement mis la cuisine en ordre. L'une après l'autre, les enfants viennent embrasser leur père et tendre la main, non sans une certaine appréhension, à l'hôte de Noël. Quand c'est le tour de la petite Églantine, le geste reste inachevé et la frayeur prenant le dessus, elle veut s'enfuir vers la porte de la chambre. Mais sa mère la saisit au passage et la ramène de force près de René. « j'ai peur !» murmure l'enfant. « Petite sotte, de quoi as-tu peur ? C'est le Seigneur qui nous a envoyé un invité. Voyons, il ne veut pas te faire de mal !» Le garçon saisit la menotte qui s'offre à lui, mais en même temps, ses joues se couvrent d'une intempestive rougeur. La honte le submerge comme un flot soudain et malgré lui, il se penche vers la porte de l'étable pour regarder si le canon du fusil n'est pas visible auprès du tas de sarments. Il ne veut pas te faire du mal. Hélas, dans quelle intention s'est-il glissé ce soir dans la maison sans défense qui s'est faite ensuite si accueillante pour lui? Que va-t-il faire maintenant? Remercier le garde, s'en aller, échanger désormais d'attitude envers lui? Sa conscience, qui s'éveille brusquement à cette heure, crie bien haut l'insuffisance d'une telle réparation. Un monde nouveau apparaît à René, un monde extraordinaire dont les horizons lui paraissent infinis. Il en a le vertige et la vision va s'évanouir, il le sent très bien, s'il n'obéit pas à la voix impérieuse dont les accents sont si nouveaux pour lui. Il faut qu'il confesse tout au garde, sa haine, son horrible projet. Il faut qu'il se débarrasse du poids qui oppresse son cœur si douloureusement. Et selon la conduite de Blaise Rousson, il agira. S'il est jeté dehors, insulté, méprisé, oh, ce sera sans doute très simple, il ira chercher son fusil et c'est contre lui-même que le canon sera tourné. Ainsi, en finira-t-il une fois pour toutes avec sa misérable vie. Et si le contraire se produit, si cette chose invraisemblable arrive, que le garde pardonne et ne retire pas son affection qu'il semble lui offrir, alors ce sera si beau, si merveilleux qu'il vaudra la peine de vivre. René appuie la tête sur ses bras croisés au coin de la table et des sanglots convulsent ce coup. Aura-t-il le courage de parler? Le garde se tait, les yeux perdus dans la flamme du foyer. Cette explosion de douleur l'émeut profondément, mais il ne sait s'il doit l'interrompre. Quel dommage de n'être pas plus instruit, se dit-il, ni plus capable de parler. Il y aurait tant de choses à dire à ce pauvre garçon dans un moment pareil. Il faudrait qu'il sache que Dieu l'aime et peut transformer sa vie. Mais comment lui expliquer cela? Je ne sais pas m'y prendre. Seigneur, aide-moi et aide-le. À cet instant, René relève la tête, regarde autour de lui d'un air farouche, puis résolument. Monsieur Rousson, il faut que je vous dise quelque chose d'affreux. Quand vous le saurez, vous me jetterez dehors, je le sais, et vous aurez raison. Mais tant pis, il faut que vous sachiez la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, je vous détestais de toutes mes forces, et surtout depuis ce procès-verbal, vous savez, je vous détestais tellement que j'avais décidé de vous tuer. Oui, oui, vous pouvez le croire. Je voulais vous tirer dessus et vous abattre comme un chien. Ce soir, je suis venue, là, dans votre étable. Vous pouvez aller voir, il y a encore mon fusil. Et alors ? Demanda le garde d'une voix frémissante. Qui t'a empêché de tirer ? Personne, ou plutôt, je crois bien qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui m'a arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi. Vous aviez tous l'air si heureux. Vos enfants ont chanté. Et puis vous avez dit que si un mal revenait, vous le recevriez. Et j'ai voulu voir. Tout cela a été débité nerveusement, d'une voix hachée. Devant le garde, René est un pauvre être pantelant avec ses yeux rougis et son regard presque dément. Une immense pitié remplit le cœur de Blaise. N'a-t-il pas là une occasion merveilleuse de manifester par son attitude l'amour miséricordieux du Père Céleste. « Je te pardonne, » dit-il doucement, et ses mains se posent sur les épaules du garçon. « Tu as été malheureux. Tu as souffert. Personne ne t'a jamais parlé de Dieu. Je te plains, mon pauvre petit, et je suis prêt à t'aider, si tu le veux. » Cette fois, devant le pardon si simple et si grand, le cœur de René se brise. Ce sont des larmes de joie qui coulent sur ses joues, tandis qu'il répète lentement « Vous me pardonnez ? Vous me pardonnez ? Mais pourquoi êtes-vous si bon ?» Le garde secoue la tête. « Comment pourrais-je te condamner, moi qui ai besoin comme tout homme du pardon de Dieu ? Vois-tu, mon pauvre garçon, je ne sais pas t'expliquer ces choses. Mais ce soir, c'est Noël, le jour qui nous rappelle que Jésus est venu sur la terre pour expier nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Si seulement tu voulais le croire, si tu voulais, à partir de ce soir, renoncer à ta vie passée et t'engager dans le bon chemin. Je le ferai si vous voulez vous occuper de moi, me guider, me conseiller, répond résolument René. Je n'avais jamais cru que Dieu existait, mais ce soir, je l'ai vu. Pour que vous me montriez tant de bonté à moi qui ne vous ai fait que du mal, il faut vraiment que cela vienne de plus haut. Je ne comprends encore rien, mais si ce Jésus dont vous parlez vous ressemble, je désire le connaître aussi et apprendre à vivre comme vous. Je vous laisse mon fusil, monsieur Rousson. Je ne veux plus le toucher de ma vie. Gardez-le, un souvenir de ce jour de Noël où vous avez eu pitié du pauvre misérable que je suis. Quand, un peu plus tard, Marie-Jeanne entre dans la cuisine, elle s'arrête. Interdite. Auprès de la cheminée, où le feu n'est plus qu'un amoncellement de braises rougeoyantes, les deux hommes sont agenouillés. Le garde prie d'une voix que l'émotion étrangle, et à côté de lui, le petit braconnier sent pour la première fois un contact entre sa pauvre âme pécheresse et le Dieu qui veut et peut le sauver. Signé Denise Soulier. Amis auditeurs, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et n'oubliez pas d'écouter en direct Je lis pour vous et nos émissions sur Radio Alliance Plus, 103.2 en FM et DAB Plus, les mardis, mercredis à 21h30, et rediffusion les lundis et mardis à 6h ou en podcast sur notre site. Au revoir, chers amis. Chantons.